Bonjour Guillaume Dard.
Bonjour Raphaël.
Président de Montpensier Arbrevel, vice-président de l'Association française de gestion financière. Bienvenue sur le plateau. Gilles Raveau, bonjour.
Bonjour Monsieur Legendre.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Et je le disais, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Ponce. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Qui nous vient des États-Unis. Merci d'avoir fait le voyage. Professeur d'économie à Harvard et membre du Conseil d'analyse économique. Allez, je voulais qu'on commence par l'interview d'actu économique du jour. Édouard Philippe, qui avant son premier grand meeting ce week-end, sort un peu plus sur son programme économique, en tout cas les grandes lignes directrices. Édouard Philippe, qui définit, qui place la réforme des retraites comme la mère de toutes les batailles. Allez Guillaume, je commence avec vous. Est-ce qu'il a raison ? C'est dangereux, hein, politiquement, c'est quand même
oui,
ou un peu
casse-gueule.
On peut
dire c'est courageux. C'est courageux parce que ça a été incroyable, le consensus au moment du vote du budget sur le fait qu'on dise, bon, alors comme c'est un sujet trop chaud, on va mettre de côté cette réforme et ça a été même voté de gauche, bien sûr, mais à droite, assez largement. Donc, c'est bien de s'affirmer puisque face à la situation économique et financière française, il faut faire quelque chose et c'est mieux que de faire juste du en même temps et d'aller un peu directement.
Ouais.
Pourquoi c'est très important? Et alors, est-ce que c'est la mère des batailles? En tout cas, c'est probablement très significatif, puisque le problème français, on en parle à longueur d'année sur ce plateau, c'est qu'il faut qu'il y ait au total de la vie plus de travail en France. C'est-à-dire qu'on sait que on travaille un peu tard et on prend sa retraite trop tôt, et que donc au total, il faut plus de travail, parce que à la fois, bien sûr, ça fait baisser les besoins de versement de retraite, mais aussi ça génère davantage de richesses.
Et, oui.
Et que vous avez là aussi dit à peu près 500 fois, si on travaillait autant qu'en Allemagne, on aurait 200 milliards de plus dans le budget et tout serait réglé.
Plus de problème de déficit.
Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut plus travailler. Les Français, ils aiment bien quand même prendre leur retraite tôt, parce que c'est un patrimoine, c'est une sorte de patrimoine. C'est, on vous dit, ben, on va vous donner une rente pendant 20 ans, vous avez une durée de vie assez longue, et donc on touche d'une certaine façon à un patrimoine symbolique et financier des Français.
Oui.
Et donc, pour qu'ils travaillent davantage, on retombe sur le deuxième sujet, et ça c'est peut-être la deuxième mère des batailles, il faut que le travail paye plus.
Paye davantage, c'est le grand sujet.
Il y a une livre de Guigné qui est intéressant,
oui.
Qui s'appelle « Est-ce que les Français... » Je ne sais plus exactement le titre, Raphaël, vous savez plus, est-ce que... Les Français, et pourquoi les Français?
Pourquoi les Français n'aiment pas le travail, pour faire simple, travaillent moins que les autres.
Veulent-ils encore travailler? Je crois que c'est un peu plus positif que ça. Et la réponse, elle est à peu près claire, c'est le salaire net est insuffisant. Donc tout est lié. S'il y a la retraite est plus tard, il y aura peut-être un peu moins de cotisations de retraite. Et il faut qu'il y ait aussi moins de cotisations par ailleurs pour que le salaire net soit plus fort et que les gens aient envie de travailler. Les gens ne veulent pas non plus travailler pour être peu payés.
Gilles, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Édouard Philippe a un problème majeur, c'est que le cœur de son électorat, c'est les retraités. Et donc, effectivement...
Mais les retraités sont pour repousser l'âge de départ en retraite. Eux y étant déjà.
Oui, c'est vrai. Mais...
ce sont les actifs là, qui vont être concernés peut-être davantage. Non, mais sur le constat déjà...
Mais je note que dans son interview que j'ai lu et relu attentivement, il ne fait aucune proposition. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, tout le monde le sait, on a un problème des retraites.
Oui.
Alors en fait, je pense qu'il y a deux insuffisances dans son raisonnement. C'est que d'abord, la première, c'est qu'en fait, c'est trop tard, les retraites, parce que ce qui est problématique, c'est les retraites d'aujourd'hui, mais c'est pas vrai, c'est pas les retraites de demain, parce que ce qu'on voit justement sur les cohortes qui arrivent à la retraite ces dernières années, c'est qu'il y a eu des réformes très profondes de notre système de retraite.
Ah oui, ça, on n'arrête pas. Oui.
Avec un allongement considérable de la durée de cotisation. Et donc, vous avez de plus en plus de gens qui arrivent humainement au moment où ils prennent leur retraite, sans avoir les trimestres, en passant par des périodes de chômage. Et donc, en fait, les retraites qui sont versées actuellement sont beaucoup moins problématiques. Ce qui est problématique, malheureusement, c'est les retraites des gens qui ont 65, 70, 75, 80, 85, 90 ans. C'est ces retraites-là qui sont beaucoup trop élevées par rapport à la richesse produite du pays. Et évidemment, c'est assez difficile humainement de dire à ces gens-là qu'on va leur baisser leur retraite, et j'attends de voir si c'est ce qui va être proposé. L'autre, à mon avis, impasse très importante, Édouard Philippe nous dit, on a un appauvrissement chronique de notre pays, oui. J'en appelle à un retour de la politique de l'offre.
Oui, vous êtes d'accord avec ça ?
Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que Ce qui manque profondément dans son raisonnement, pour l'instant, dans les différents discours qu'il a fait de lancement répété de sa campagne présidentielle, c'est qu'il ne s'intéresse qu'à la quantité de travail et non pas à la qualité. Or, ce qui fait la richesse d'un pays, on le sait depuis un certain Adam Smith, c'est la productivité.
Oui.
Et donc dire on va travailler plus, on va produire plus de richesses, ça paraît évident, en fait c'est largement faux. C'est-à-dire que si vous avez un emploi très peu productif, vous produisez très peu de richesses et donc vous ne pouvez pas financer le système social. Je donne juste un exemple. Il y a un pays qui s'appelle la Corée du Sud, pays étrange au niveau de vie tout à fait comparable au nôtre, où on fait par exemple des frigos. La production française de réfrigérateurs, elle est nulle. Mais en Corée du Sud, on fait aussi des puces.
Oui.
Et les salariés de Samsung, hein, ça a fait la une de la presse il y a quelques semaines,
oui,
ont reçu... Alors, c'est assez rigolo, hein, parce que ceux qui, font les frigos chez Samsung, ils ont eu une prime annuelle de l'équivalent de 4000 euros. Puis ceux qui font les semi-conducteurs les plus avancés, oui, ils ont une prime annuelle de 300 000 euros, hein, juste cette année. Et ça représente, d'après ce que j'ai lu dans la presse, à peu près 12%.
300 000 euros de prime annuelle.
Oui, en salaire et en actions, et c'est 12% du bénéfice de leur secteur d'activité.
Mais il faut dire le bénéfice de Samsung. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est que Samsung, ils vont gagner peut-être 200 milliards cette année. Et donc là, en France, le débat, ce ne serait pas celui-là, ce serait, c'est un profit indu, puisqu'au fond, c'est un peu la même chose que sur le pétrole, c'est que tout d'un coup, il y a une demande de semi-conducteurs, et que, comme pour le transport maritime, et donc en France, on penserait surtout à taxer Samsung.
Oui.
Enfin, ce que je voudrais juste dire pour terminer, c'est que j'aimerais qu'un des mots maîtres de la réflexion économique sur l'année qui nous sépare de la prochaine élection présidentielle soit celui de productivité.
Oui. Un débat ne chasse pas l'autre d'ailleurs. La quantité et la qualité, ce sont les deux jambes du chemin vers la prospérité.
Les deux ne sont pas contradictoires.
Vincent Ponce,
la productivité est vraiment beaucoup plus importante sur la croissance à long terme.
Bien sûr.
On évoquait votre carrière juste avant de rentrer en plateau. Vous m'expliquiez que vous étiez aux États-Unis depuis 2008. Quand ça fait près de 20 ans qu'on habite outre-Atlantique, quel regard on porte sur ce débat passionnel en France sur les retraites ?
Le débat existe aussi aux États-Unis, puisque aux États-Unis, on l'oublie parfois, mais en plus des retraites privées, donc de ce système par capitalisation, il y a aussi un système de sécurité sociale.
Comment ça fonctionne ?
Alors, donc les gens cotisent, moi, par mon université par exemple, un système de retraite privée, et en plus de ça, l'État donne des retraites plus faibles, mais qui bénéficient notamment aux individus les plus modestes.
Oui.
Et c'est un système qui, aujourd'hui, est aussi menacé d'un déséquilibre, de telle sorte que s'il n'est pas réformé, s'il n'y a pas davantage de revenus qui sont alloués à ce système, les plus modestes des Américains n'auraient plus droit à cette retraite. À mon sens, sur les retraites, il y a toujours un double enjeu. Hein. Il y a un enjeu du poids de la dette en France, 117%.
On va y venir.
Il y a un enjeu aussi de justice inter- et intragénérationnelle. Mmh. Sur la dette, cette dette est très élevée. Elle a pour conséquence qu'on paye un spread, un taux d'intérêt nettement plus élevé au taux d'intérêt allemand. Une façon de réduire ce taux d'intérêt et de regagner la confiance des investisseurs, c'est de réduire les dépenses sur les retraites. Mais ensuite, évidemment, la question, c'est quelle réforme faut-il faire ?
Oui, ça semble compliqué quand même de baisser les retraites de nos pensionnés, non ? Enfin, ça serait quand même assez injuste. On l'a vu dans d'autres pays européens pendant la crise, hein, ceci dit. Hein, mais...
Si vous regardez ce qui se passe au Danemark, par exemple, je suis en train d'étudier ce pays. Et,
le fameux modèle danois.
Ils ont un modèle sur les retraites qui est assez séduisant, puisqu'en fait, ils ont augmenté l'âge de départ régulièrement, toutes les années ou tous les deux ans, de 6 mois. Et donc, il y a un consensus très large, à la fois des électeurs et des différents partis, pour que ce système perdure. C'est un système qui est à l'équilibre. Et je pense qu'il faut qu'on envisage aussi des réformes en France qui ne sont pas des réformes couperets, avec un avant et un après qui sont complètement différents, mais plutôt des réformes glissantes, progressives, qui entérinent un changement des règles. Et, aujourd'hui, on sait qu'on a des problèmes de justice. Alors, je disais intergénérationnel, pourquoi ? Parce que si vous avez un système qui n'est pas à l'équilibre, ça veut dire que les générations actuelles savent qu'elles ne pourront pas compter sur une retraite demain. Et il y a une question intragénérationnelle aussi, puisqu'on a un système qui aujourd'hui favorise les carrières ascendantes et défavorise les carrières qui sont plus pointillées, qui sont plus courtes, notamment les carrières des femmes, les carrières d'individus moins bien rémunérés. Il faut évidemment tenir compte de ces différences dans les réformes qu'on va engager.
Il y a
Guillaume Dard.
Vous savez, Raphaël, qu'avec la librairie de l'Écho, nous avons donné le prix BFM Business Montpensier-Arbevel à un livre formidable qui s'appelle Économie des âges de la vie, Économie des âges de la vie, d'Hippolyte Dalbis.
Et, président du Cercle des économistes.
Et qui présente une réflexion très intéressante. Il dit il faut arrêter de réfléchir uniquement en binaire. Ce qu'on aime bien, c'est dire juste actif versus. Il dit il faut avoir une réflexion ternaire, c'est-à-dire qu'il faut regarder les trois âges de la vie. Le premier âge, celui de l'enfance, de l'adolescence, au moment où on est à l'école. Ensuite, le moment du travail, puis le moment des gens qui partent à la retraite et ensuite peut-être la dépendance. Et ce qu'il explique, c'est que le fonctionnement de l'économie est beaucoup plus subtil, puisque d'abord, il dit globalement, on donne encore davantage d'argent au premier âge, c'est-à-dire à l'âge de l'éducation, de la formation, de l'aide à l'enfance, qu'au troisième âge, entre guillemets, que deuxièmement, les flux financiers.
On donne davantage de moyens.
Ben, alors, pardon,
mais
budgets,
si on compare les pensions
moi, je suis pas du tout
avec le budget de l'éducation nationale.
Vous irez discuter avec Hippolyte Dalbis, ouais, il le dit.
On a un rapport de x10 quand même. Hein.
Pardon, non, c'est clair.
C'est ben, presque si un rapport de x10. Si vous regardez l'ensemble des dépenses d'éducation nationale.
Oui, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des flux financiers.
Si finir. Je voudrais finir la démonstration parce que c'est celle d'Hippolyte Dalbis et elle me semble très intéressante.
Et après la réponse,
il explique l'ensemble. De ce qui est donné au premier âge et en tout cas comparable au troisième âge.
Oui, politique de la famille, etc. Oui.
Politique de la famille, l'ensemble de ce qui est fait, l'ensemble des frais des écoles, l'ensemble des frais d'aide...
Ce sera un débat intéressant, on l'invitera Hippolyte
Dalbis. Ternaire. Deuxièmement, en ce qui concerne l'analyse des fonctionnements de transfert intra-âge, à la fois, les anciens bénéficient certes de la redistribution sociale pour une partie importante, mais deuxièmement, ils font appel à leurs économies, et troisièmement, eux-mêmes sont grands, transfèrent beaucoup d'argent aux générations suivantes. C'est-à-dire que, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais que l'ensemble, si vous analysez.
Oui, c'est l'ensemble, ben en vrai, je lis des reçus que voilà, les retraités seraient des égoïstes qui passeraient leur temps en voyage et qui ne s'occuperaient pas des plus jeunes.
Il y en a sûrement, mais
on a parfois
si
eu tendance à caricaturer un peu les retraités.
Et le livre est à la fois très lisible, très bien écrit et appuyé sur des batteries de chiffres que notre camarade professeur pourra analyser en détail et contester directement auprès d'Hippolyte Dalbis, pas avec moi. Mais que donc cette vision caricaturale naturel, actif, retraité, est trop serré.
Et plus nuancé, oui. Gilles Raveau.
Non, mais ce n'est pas du tout caricatural. Première chose, il faut regarder l'ensemble des transferts, évidemment, publics et privés. Bon, typiquement, aujourd'hui, quand vous payez, je simplifie, mais c'est ça, quand vous payez un loyer, vous êtes quelqu'un qui travaillait, et lorsque ce loyer est encaissé par une personne, la plupart du temps, c'est une personne retraitée. Donc, les transferts sont massifs, des gens qui travaillent vers la retraite, tout le monde le sait. Le taux d'épargne des retraités est dingue, le patrimoine des retraités est dingue. C'est la faute de personne. C'est une génération exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité.
Je rappelle que la pension moyenne est de 1 500 euros en France aussi et que les retraités est une catégorie peut-être très généralisée.
Tout à fait d'accord. Ils sont tellement nombreux. Il faut quand même mesurer qu'en France, un adulte sur trois est retraité. Donc évidemment, ça n'est pas une classe sociale. Ça n'a aucun sens. On parle de 17 millions de personnes. Oui. Mais après, on fait des moyennes. Bon, c'est notre métier. C'est un concept assez subtil à comprendre.
Et l'ensemble des non-actifs, c'est encore plus frappant puisque. Il y a que 40% à peu près des Français non-Gilles qui travaillent.
On est 30 millions à travailler.
Oui. Voilà. Sur 67, 68, 67 millions, 70, donc on est à 40%.
Oui. C'est ça. Et là-dedans, je compte les fonctionnaires qui pourtant ne font rien.
C'est sympa pour les fonctionnaires.
Non, c'est une petite boutade. Mais l'indicateur.
Partie,
non, mais l'indicateur. Non, mais c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, c'est la faute de personne ou de tout le monde. C'est ce qui est la même chose finalement. Le niveau de vie moyen des retraités, le niveau de vie, c'est-à-dire effectivement lorsqu'on regarde ce qui vous reste une fois que vous avez enlevé les dépenses contraintes, est supérieur aux gens qui travaillent, notamment parce que qu'est-ce qui se passe actuellement ? Évidemment, il y a l'augmentation très forte du coût du logement des dernières décennies, qui encore une fois, sur le plan intergénérationnel, on voit très bien qui paye et qui en bénéficie, c'est évident. Et par ailleurs, il y a l'augmentation très très forte du coût des études. Il y a eu une libéralisation très forte, comme aux États-Unis, des études supérieures. Vous avez aujourd'hui, hein, pour ne pas citer d'exemple, des années de master à Sciences Po Paris qui vous coûtent 10 000 euros. Donc ça repose sur les gens qui travaillent. Donc, et quand vous êtes à la retraite en France, vos systèmes de dépenses de santé sont largement socialisés, vous n'avez plus d'enfants à charge, travailler ça coûte cher en termes de déplacement, d'habits, on mange dehors, il y a plein de choses, etc. Donc le niveau de vie moyen des retraités est supérieur à celui des gens qui travaillent. C'est aberrant économiquement et surtout démocratiquement. Voilà, c'est un énorme problème. Mais encore une fois, c'est la faute de personne. On a eu cette génération qui... Et donc, c'est là que je reviens à mon truc de productivité. Pourquoi est-ce que les retraites sont aussi élevées? Parce que c'est des gens qui ont eu des carrières à un moment où l'économie française faisait 5% de croissance par an, parce qu'il y avait des gains de productivité de 5% de croissance.
Et puis une pyramide des âges qui n'était pas tout à fait celle que l'on connaît dorénavant.
Mais si on avait eu 5% de croissance, évidemment, depuis les années 90, les retraites représenteraient peut-être la moitié ou même moins de ce qu'elles représentent aujourd'hui par rapport au salaire.
Bah oui.
C'est ça l'explication. C'est
le moteur de la prospérité.
Bah oui.
Et si on avait la productivité américaine depuis, je crois, les 20 dernières années,
le salaire médian global de la France,
3300 euros et pas 2200.
On peut prolonger et en gardant les arguments de Gilles, c'est-à-dire que l'insuffisance productivité, l'insuffisance de l'innovation technologique. L'Europe a perdu la révolution technologique. C'est-à-dire qu'on est en train d'être un pays de troisième zone. Enfin, et la France à l'intérieur encore pire. Donc, le sujet, c'est l'insuffisance richesse. On est passé au 25e PIB par habitant. Alors, là, dans les 25, il y a plein de petits pays. Mais enfin, si on prend les grands.
Sous la moyenne européenne.
Si on prend les grands, on est au 15e. Donc, il n'y a pas assez de richesse. Donc, oui, il n'y a pas assez de salaire.
La réponse.
S'il
n'y
a pas assez de salaire, c'est qu'il n'y a pas assez d'une économie qui est à l'arrêt.
Vincent Ponce.
Gilles parlait tout à l'heure des électeurs d'Edouard Philippe, des électeurs des différents candidats. Je pense que c'est une partie importante du problème, en plus des circonstances historiques qui ont permis à cette génération aujourd'hui qui est à la retraite d'avoir une situation qui est favorable. La situation politique, elle est simple. Vous avez aujourd'hui des retraités qui correspondent à un poids croissant des électeurs, une fraction croissante des électeurs.
Et, oui.
Et qui en plus votent beaucoup plus que les générations les plus jeunes. Donc si vous êtes un candidat, évidemment, il y a un moment où il faut vous adresser à vos électeurs potentiels et à vos électeurs actifs, et il se trouve qu'ils sont bien plus nombreux.
Et ben dans le livre d'Hippolyte Dalbis, il dit que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, les jeunes non plus ne votent pas tous. En fait, les jeunes ne votent pas énormément. Donc en proportion
moins que
des classes d'âge, et que deuxièmement...
Mais c'était exactement mon point.
C'est ça, oui.
C'est que les retraités pèsent beaucoup plus que les jeunes, parce que les jeunes votent moins.
Et les retraités votent dans la tranche 60-70, et après 75, votent beaucoup moins. Donc c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire que sur le poids.
La majorité en 2025 a été une année de bascule pour deux raisons. Un, on a eu plus de morts que de naissances. Et deux, les plus de 50 ans sont depuis l'année dernière majoritaires dans le corps électoral. Évidemment, le pays étant vieillissant, ça ne va pas changer.
Mais donc le sujet, c'est qu'on est quand même... en train toujours de parler d'un trop petit gâteau qu'il faut répartir en disant ben alors il y a rien à manger, je vais te reprendre un peu parce que toi tu manges un tout petit peu. Donc moi j'aime beaucoup le propos de Gilles. Le sujet c'est la productivité, c'est la force du site France, il faut innover, il faut produire et ça se passera pas par un grand plan hein. Ça se passera par un site France qui soit favorable à la création de richesses.
Plus prospère, effectivement. Les recettes pour être plus prospère, l'OCDE en a publié hier une étude spécifique sur la France où elle parle à nouveau de dette comme la Commission européenne, comme la Cour des comptes la semaine derrière, l'OCDE qui évoque 100 milliards d'euros d'ajustement d'ici 2030 avec ce que les échos appelaient ce matin un remède de cheval hein, c'est retraite repoussée, dépenses réduites et impôts supplémentaires, bref, une petite cure d'austérité mais parce que pourquoi il y a un risque d'emballement de la dette quand même. Vincent Ponce, est-ce que vous pensez que la France arrive, est-ce qu'il est -5 quoi, est-ce que ce scénario d'emballement qu'on évoque depuis 20 ans en France, depuis le rapport Pébro de 2003 de mémoire, qui s'inquiétait des 1000 milliards. Bon, on est en route vers les 4000 milliards aujourd'hui. Est-ce qu'on est en zone de danger là ?
On est en zone de danger parce qu'on a une dette qui fait 117% du PIB. Quand vous avez une dette qui fait plus de 100% du PIB, il y a une conséquence mathématique qui est qu'à chaque fois que votre taux d'intérêt augmente de 1 point, vous allez dédier 1% de toute la richesse produite dans le pays une année, avant même de la répartir entre les salariés et les actionnaires, simplement au service de la dette.
Oui.
Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que la différence entre le taux d'intérêt payé par la France sur sa dette souveraine et le taux d'intérêt payé par l'Allemagne a doublé au cours des 5 dernières années.
Oui.
Ce qui montre que les ménages, les fonds qui prêtent à l'État français pour qu'il puisse renouveler sa dette, lui font de moins en moins confiance pour rembourser sa dette et donc demande à s'assurer avec un taux d'intérêt qui est de plus en plus important. C'est la raison pour laquelle il y a un enjeu aujourd'hui important de rétablir l'équilibre, de réduire le déficit qui est 5% cette année.
Edouard Philippe propose 2%. On ne sait pas encore complètement par quelles voies et moyens, mais en quelques années.
Mais au-delà de cet enjeu de réduire le déficit, il y a aussi un enjeu de retrouver la croissance, puisque la croissance va aussi mécaniquement faire entrer des revenus et réduire le poids de la dette par rapport au PIB.
La dette française qui pourrait atteindre 127% du PIB dès 2030, alerte l'OCDE, et 200% d'ici 2050, Gilles Raveau. C'est un peu comme la température extérieure, quoi. Hein. C'est la grenouille dans la bouilloire, là. C'est étonnant.
Il y a la dette objective et la dette ressentie. Et la dette ressentie. Et moi, comme fonctionnaire, la dette, je la ressens très bien. La dette est déjà là, effectivement. Encore une fois, mais il est largement trop tard parce qu'on a une inertie des masses, comme Vincent Ponce l'a rappelé, qui sont là. Donc, juste un ordre de grandeur. On est à peu près, enfin les gens raisonnables, on est à peu près d'accord pour dire qu'effectivement, en gros, il faudrait diminuer le déficit annuel en gros de 100 milliards.
Voilà. Je rappelle qu'on est à 130 milliards cette année.
Il faut bien, je reviens aux bases, il faut bien comprendre que qu'est-ce que c'est que le PIB de la France ? Le PIB, c'est le nouveau flux de richesses qui est produit chaque année.
Oui.
Chaque année, au 1er janvier, à minuit et une seconde, le PIB, c'est zéro. D'accord ? Le compteur est remis à zéro, mais pas la dette. D'accord ? Pas la dette. C'est-à-dire que le PIB, c'est un flux, il faut produire chaque année. Bon. Si vous voulez diminuer donc chaque année, ou en tout cas ou une année, le choc là que propose Édouard Philippe, passer de 5% du PIB à 2%, le PIB c'est à peu près 3 000 milliards, donc 3% c'est 90 milliards, j'arrondis à 100 milliards, parce que, on est un peu nul en maths en France, et moi le premier, donc 100 milliards divisé par 50 millions d'adultes, ça fait 2 000 euros. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, il faut diminuer le niveau de vie moyen de l'ensemble des adultes, où il y a quand même 15% de pauvres, etc., tout le monde n'est pas riche en France, de 2 000 euros. C'est impossible. Enfin, je veux dire, humainement, économiquement, politiquement, ça n'est pas possible. Donc, je ne comprends pas, voilà. Je ne comprends pas ce qu'on va faire.
Alors, moi, je suis pour le plan Raveau. Monter la productivité en France, c'est clé. Alors, quelles sont les solutions ? Parce que là, on est de nouveau en train de... On est tout à fait d'accord sur le constat de la dette. Et effectivement, c'est effrayant. Mais on ne change pas le logiciel. Autre ouvrage à qui on a remis le prix BFM Business Montpensier-Beuvel il y a deux ans, celui de Christophe et Auge Duval sur l'inflation normative quand la France crève de trop de règles.
Oui.
Si vous regardez là, on reste sur le sujet de la dette. Si vous prenez la courbe, Raphaël, écoutez-moi, si vous prenez la courbe de la dette et la courbe de l'ensemble des réglementations en France, elles se collent depuis 80, elles sont collées. Et donc, c'est un pays qui est entravé.
Corrélation n'est pas causalité, mais il y a peut-être quelque chose entre les deux, effectivement.
J'ai pas dit que c'était causalité.
Ça marche aussi avec les températures.
Vous marquez avec la corrélation, elle est quand même remarquable, et on le sent bien, on voit bien quand dans d'autres pays, je ne vais pas en citer,
mais il y a un peu moins de règles, ça fonctionne plus vite. Il y a un nouveau rapport sur le sujet, effectivement.
Et donc, c'est vraiment un des sujets. Si on veut retrouver la productivité Raveau, absolument indispensable, la productivité, c'est on peut générer plus d'argent pour le même nombre de personnes. Or, ces règles, vous voyez bien qu'elles entravent absolument tout. Les délais de construction des usines, les délais de construction des autoroutes, les délais de construction de ci, de ça. Le pays est bloqué. Le pays étant bloqué, on n'y arrivera pas. Donc, je ne sais pas, la retraite, c'est la mère de toutes les batailles pour l'équilibre. Et pour l'équilibre des comptes et surtout pour la quantité de travail. Oui. Mais ça doit s'accompagner de la productivité. Et la productivité, ça demande un vrai effort de règle. Sur ces histoires de règles, ça fait 50 ans que tous les gouvernements le disent. Aucun ne le fait. On a le Parlement le plus bavard. Combien, je ne sais pas, 400 000...
Normes en France, règles et normes. C'est le stock, ça, effectivement.
Le stock, il est beaucoup plus important. Il est aux alentours de 20 millions tellement, si vous regardez toutes les règles qui existent, et on en produit, et les textes de loi sont de plus en plus bavards, les décrets d'application de plus en plus bavards.
Sans être
le pays est bloqué.
Appliqué.
Et c'est là où il faut ce reset. On est entravé.
100 milliards de redressement, est-ce qu'on peut éviter les hausses d'impôts massives?
Gilles, Vincent, vous avez des règles toutes les deux minutes, vous ne pouvez rien faire, il dit rien. Gilles, il dit, je ne peux pas faire un voyage avec des étudiants, je ne peux pas changer mon radiateur.
Et moi, j'aimerais poser une question à Vincent Ponce, Guillaume Dard, pardon. Est-ce qu'on peut redresser la barre à 100 milliards d'euros sans passer par des hausses d'impôts? Les économies, on voit à peu près, on en a parlé, mais est-ce qu'on va pouvoir éviter des hausses d'impôts dans les années à venir?
Moi, je pense qu'il va falloir malheureusement envisager aussi des hausses d'impôts. Et il me semble qu'il y a deux raisons à ça. D'abord, évidemment, ça permet de résoudre une partie du problème. Et ensuite, ça permet de faire passer la pilule. Alors, on parle de quels impôts ici ? on est quand même dans un monde en France, encore plus aux États-Unis, où vous avez une augmentation forte des inégalités de patrimoine. Je regardais encore les chiffres ce matin. Les 0,001% de nos concitoyens les plus fortunés, donc on parle quand même de très très peu de gens,
oui,
détenaient 1% du patrimoine total français il y a 20 ans, et aujourd'hui 5%. Donc vous avez cette explosion des inégalités de patrimoine. C'est tout à fait naturel de vouloir
taxer. Le patrimoine étant en l'occurrence, dans ces cas-là, l'entreprise et l'entreprise cotée, bien souvent. Donc c'est une valeur de marché
absolument
financier.
Et c'est un patrimoine qui est aussi ensuite légué aux générations, aux générations futures.
Oui.
Donc pour des raisons de justice, à nouveau, et d'égalité des chances, taxer ces patrimoines les plus importants permettrait à la fois de faire rentrer des rentrées d'argent supplémentaires et sans trop affecter les incitations, si on fait notamment une taxe sur les héritages, permettrait de rétablir l'égalité des chances entre tous les citoyens.
Donc ça serait le capital, hein, la source. Parce qu'on est le problème en France, c'est qu'on est au taquet sur absolument l'ensemble des assiettes, hormis la consommation. Vous dites donc héritage.
Ça serait une façon. Ça serait une façon, puisqu'il va falloir faire un effort commun. Ça serait une façon de signaler aux Français que les plus fortunés, les plus chanceux aussi, parce que parfois on a accumulé du patrimoine grâce à la chance, vont être mis davantage à contribution que le reste de la population.
Allez, Gilles Raveau et Guillaume Dard.
Il ne va pas nous dire si c'est le cas, mais moi je souhaiterais vraiment, je dis ça très sérieusement, que quelqu'un comme Vincent Ponce conseille Édouard Philippe. Et notamment, il y a trois pistes qui font...
Pas de hausse d'impôt, dit Édouard Philippe.
Oui, je sais. Tout à fait. Il y a trois pistes qui sont relativement... Je ne développe pas, mais il y a des propositions très précises, notamment de Philippe Acumon, de vous-même, de Xavier Jaravel, qui sont vraiment quand même des gens très sérieux, qui travaillent. C'est de raboter le pacte Dutreil, hein, qui conduit à des excès d'exonération fiscale. Deuxième piste, c'est ce qu'on appelle la taxation des plus-values latentes aussi là, sur l'assurance-vie au moment des transmissions. Et effectivement, je recommande à tout le monde, il y a une excellente note du Conseil d'analyse économique sur l'héritage qui propose un taux de taxation croissant des héritages, des différents héritages qu'on reçoit au cours de la vie. Je sais que c'est l'impôt le plus détesté
France, les plus modestes le refusent.
Mais si on ne fait pas ça, on se prive d'une part importante des solutions nécessaires à la maîtrise de l'endettement public.
Allez Guillaume, très rapidement avant la coupe.
Je rappelle le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas le bien de ton voisin. Or, on sent bien dans tout ça, même si le sujet des inégalités est un vrai sujet, une espèce de jalousie très française et absolument permanente. Deuxièmement, par rapport à l'impôt sur la mort, il y a deux attitudes humaines. Il y a un certain nombre de gens qui disent « Oui, c'est moi qui ai gagné, mes enfants, je les ai faits, mais je vais leur donner un petit appartement, mais ils n'ont aucun besoin de milliards, et il y a des milliardaires américains qui donnent. » Et il y a d'autres personnes, et qui sont plutôt, à mon avis, majoritaires, et c'est assez français, qui disent « J'ai travaillé toute ma vie, j'ai construit quelque chose, ça a été difficile, j'aimerais que mes enfants partent d'un point plus haut. » Donc, cette attitude psychique, vous ne l'enlèverez pas. Troisièmement, quand on parle des inégalités, si vous parlez de Elon Musk, qui est l'homme absurdement riche, mais il est absurdement riche parce qu'il est absolument génial. C'est-à-dire que les 1000 milliards, lui, il est arrivé à 18 ans avec 10 dollars au Canada. Il a inventé tout ce qu'on peut inventer. Il vaut 1000 milliards. Est-ce que c'est 1000 milliards qu'il a dans sa poche? Le gars, il vit la nuit sous son bureau pour construire ses fusées. Donc, c'est assez complexe de dire... et si vous enlevez Elon Musk, et Elon Musk arrête de travailler, les 2000 milliards, ils n'existent pas, puisque c'est sur sa valeur personnelle.
Et oui, le débat s'annonce passionnant. C'est évidemment un sujet qui sera dans la campagne présidentielle qui s'ouvre.